bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale vacances, la bande originale sans Nagui, mais attention avec Frédéric Sigrist, Albert Algou, Guérémy Crédville,
bonjour.
Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastoureau sera là pour maltraiter l'info. Et bien sûr, à mes côtés, Lila Cadour, bon avis.
Salut à tous, notre invité aujourd'hui, Philippe Rodon.
Bonjour.
Philippe.
Quel succès,
Et encore, il n'a enlevé que le haut.
Oui,
qu'est-ce que ça va donner?
Ça s'appelle torse nu,
Parce qu'on ne voit pas. Parce que vous êtes assis, on peut imaginer que.
Non, je ne suis que torse nu parce que j'ai bossé surtout les abdos cet été.
D'accord, ok.
Vous faites de l'aviron?
Oui, aussi. Tiens, ça se voit.
Il y a un truc de garçon, là. Il se passe un truc.
C'est les épaules, non, mais parce que l'aviron, ça fait des beaux.
C'est la carrure. Eh bien, nous, on vous retrouve pour un superbe film. Il passe à la télévision sur Arte, certes, ça s'appelle Temps de chien. C'est vendredi 1er novembre à 20h55. C'est un film réalisé par Édouard Deluc qui a été récompensé du prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction de La Rochelle 2019, qui est un festival...
C'est pas rien, en effet,
gage de la qualité. Et voilà pourquoi vous êtes au micro aussi de France Inter, parce qu'on a beaucoup aimé ce film, Temps de chien.
Sans prix, je serais jamais venu, c'est clair.
On invite quand on aime.
Première radio de France,
on aime les gens qu'on déprime.
On aime le film et on vous aime bien vous.
Merci, c'est gentil.
Les gens de prix. Avec un. Comment est-ce que je pourrais raconter l'histoire de ce père de famille divorcé qui est capitaine d'un bateau mouche.
Moi j'appelle ça le bateau louche. En fait, c'est un capitaine de bateau louche.
De bateau louche. Voilà, il est louche. Fraîchement donc divorcé, la cinquantaine, 3 enfants, avec une organisation de vie assez légère, on va dire ça comme ça. Et puis survient un événement qui va bouleverser absolument tout son quotidien. Le boulot, le fait d'être mis à pied pendant au moins 3 mois.
C'est vrai.
Dans un premier temps, et faire que tout d'un coup, ne pas avoir payé le loyer de l'appartement, avoir la garde des enfants une semaine sur deux.
Puis un petit penchant pour la
bibine. Elle l'a pas remarqué, ça. Mais il est un peu. Il est un peu déprimé, forcément. Il lui arrive que des mauvaises histoires, on va dire ça comme ça. Il a besoin de se ressaisir pour ne pas perdre la garde de ses enfants.
Voilà, c'est ça. En fait, vous avez tout dit.
Non, pas tout, parce qu'on n'a pas encore...
Parce que je devais te définir, c'est ça. Eh ben, merci, bonne journée à tous.
C'est pour poser le cadre.
Oui, mais bien sûr, mais j'ai pas plus à dire, c'est à peu près ça. Moi, j'ai tendance à penser que c'est la vie qui est mal organisée autour de lui.
Ouais.
C'est un type qui sait pas très bien faire, mais il s'était bien démerdé jusque-là.
C'est vrai.
Et puis, ça a glissé d'un coup, d'un seul... Mais ça va, enfin...
C'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, perdre le boulot, par exemple, et se retrouver à la rue. En gros, c'est une situation pas complètement irréaliste.
Enfin, sans tout dire, c'est un moment de temps de chien. Ça veut pas dire que la météo va rester comme ça pour lui.
Ça peut tourner.
Pour qui c'est plus des problèmes de météo. Lui, il y a un peu un truc comme ça. Mais voilà, je crois que j'ai...
Mais quand même, il garde la foi, il garde le cap. Et devant ses enfants, à chaque fois, mais ça va s'arranger.
C'est ça, il est capitaine.
Il
quitte pas le navire.
Pour ça qu'il a eu un prix, ce monsieur.
Et puis c'est
une vision.
Et puis c'est super de vous voir dans ce rôle de papa, tellement tendre, tellement fou de ses gosses.
Parce que ceux qui me connaissent dans la vie savent bien qu'il y a des gosses.
Je ne sais pas, Philippe, nous n'avons pas...
C'est ça, c'est là où j'ai composé le plus, c'est arriver à aimer des gosses.
Oui, non, mais c'est vrai que dans l'amour flou des gens, vous voyez dans cette passion avec les gosses, mais en tout cas là, dans ce film, à nouveau, on vous voit complètement amoureux de vos enfants, les embrasser à chaque seconde possible. C'est pas un rôle de composition, on l'a compris.
Oui, c'est pas du tout un rôle de composition. Même mes enfants qui ont vu donc le film, ont passé leur temps, parce qu'ils sont petits, à me demander si je préférais mes enfants à l'image ou eux-mêmes.
À ce point-là.
Ben oui, parce que j'ai pas joué grand chose. J'ai aimé.
Oui,
la réponse est absolument oui, mais je leur ai pas dit. J'espère qu'ils écoutent pas. Ils sont très fragiles. Mais c'est un peu de l'humour, ça, avec les gosses quand tu les rends très fragiles. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ?
Mais c'était bien. C'était pour dire aussi que dans ce casting, ce film, vous n'étiez pas seul. Il y a en effet.
C'était facile d'aimer ces gosses. C'est ça que je veux dire.
Ouais, ils ont été bien choisis.
Oui. Ils ont été très bien choisis. Bon, a priori, j'aime bien tous les gosses, mais il y en a des. Voilà, la petite. D'abord, il me rappelait un peu les miens, donc donc ça c'est pas mal choisi. La petite me créait une émotion, elle me donnait envie de chialer à chaque fois que je la voyais, donc c'était très bien, enfin voilà, comme mes propres enfants.
Pourquoi on est pauvre comme ça, elle demandait à un moment.
Ouais, pourquoi on est pauvre comme ça, ouais.
Ça touche. Enfin,
ça, si on en reparle de celle-là, elle m'a fait chialer juste en
c'était pour ça.
Bah, il faut expliquer que tout d'un coup, les enfants, à partir du moment où ils peuvent plus dormir chez leur père, et que le père ne veut pas dire à la mère dont il est séparé qu'il est vraiment en galère de logement et qu'il commence à squatter un peu à droite à gauche et qu'il doit dormir dans un lit avec tous les gamins autour de lui, bah forcément la question de la précarité de la vie, les gamins se la posent très vite en se disant c'est voilà, vrai. Est-ce qu'on va dormir dehors un jour ? C'est quand même la pire question qu'un gamin puisse poser
son père,
à son père. Ouais. Vous êtes hyper bien entouré dans ce film qui a été récompensé, je le rappelle, au Festival de la Fiction de La Rochelle. Vous avez un prix, c'est important quand même. Vous êtes fier d'avoir eu un prix pour ce téléfilm, alors, j'imagine. Vous êtes content pour le réal, pour lui aussi.
Je suis obligé de faire passer ma philosophie. J'ai aucune fierté nulle part.
Ouais, alors pour le réal.
Mais content, heureux, joyeux, tout ça, je le suis. Et pour le réal, et pour tout le monde, et pour tous les gens qu'on fait.
Le producteur.
Pour le producteur.
Non, mais j'imagine que pour le Real, le prochain projet sera sans doute plus
bien
facile
sûr,
à monter.
Et donc, tout. Non, mais après, Edouard, c'est aussi un copain et tout ça, c'est un type de talent. Donc, j'ai aucun doute même sur le fait qu'il va faire des films.
Super.
Si quelqu'un là-bas, parce qu'il n'a pas aimé tant de chiens, mais ça n'arrive pas trop, ça. mais voilà, il va en faire, quoi.
Ouais. À vos côtés, Pablo Poli, parce qu'on va revenir aussi sur ce personnage de Victor qui fait irruption dans votre vie, qui devient une sorte de double, de duo. Il y a un nouveau couple qui se forme finalement dans Tant de Chiens. Laure Calamy aussi. Elodie Bouchez, Jean-Luc Bidault qui incarne le patron des bateaux mouches, Solène Rigaud et aussi Brigitte Fossé. On va évoquer tout d'un coup cette apparition de Brigitte Fossé dans votre vie, en tout cas dans la vie de votre personnage.
Et un flic extraordinaire.
Oui.
Et un Stéphane Wojtowicz
en flic. Parce qu'il faut dire que vous vous livrez un larcin facile à repérer, on va dire ça comme ça. On ne va pas tout dévoiler non plus de ce
très ambitieux,
dent. Parce que c'est très drôle, une sorte de dent, absolument. C'est hyper drôle en fait. Même si le fond, comme ça, on voit ce père s'effondrer progressivement, s'enfoncer dans une situation hyper délicate. Vous portez une poésie en vous, naturellement, Philippe Revault. Donc, de tous les plans, il y a. Non, mais c'est vrai.
Chercher une blague, mais je ne l'ai pas.
Non, mais ouais, acceptez
ma poésie. Ouais, le poète a pris le dessus là.
Peut-être accepter un compliment comme ça, sans rougir ou sans être gêné, quoi. Ouais,
je rappelle que vous avez eu un prix.
Non seulement.
Mais c'est celle-là que je cherchais.
Vous pouvez vous en sortir toute l'émission. Dès que je vous fais un compliment, vous pouvez dire en même temps, j'ai eu un prix.
Non, il y a des gens autour.
Ouais, d'accord. Bon, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est qu'il y a votre poésie qui fait que, de toute façon, vous nous emmenez avec vous. On a envie de vous suivre nécessairement. On a envie de beaucoup rire et on rit beaucoup parce que les rencontres que vous faites, votre philosophie de vie, votre positionnement aussi dans la vie, c'est ce qui fait aussi le charme, je crois, de ce film, je le rappelle, qui sera diffusé sur Arte vendredi 1er novembre. Mais avant d'en parler davantage, la petite interro traditionnelle de début d'émission, les camarades, on va voir si vous avez bossé
vacances,
aussi.
Ouais,
contrairement à ce qu'on. N'aidez pas. Non.
Beaucoup.
C'est moi qui fais les règles.
D'abord,
vous me demandez l'autorisation.
Il y a des urgences de la prof à certains moments.
Non, c'est les règles, c'est les règles. Je veux pas savoir.
Moi, j'adore tricher quand je joue.
Ouais, c'est sûr. Mais alors, je vais vous regarder.
Mon ex-femme me déteste pour ça. Je me demande si on s'est pas séparés à cause de ça.
C'est vrai. Moi, je comprends parce que je trouve ça vraiment fou.
On y va.
Non, j'ai plus envie de jouer. C'est ça. Allez. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui en le voyant, que lui disait sa mère quand il était enfant ?
Mon petit.
Vous n'allez pas pouvoir l'aider. Vous n'allez pas pouvoir les aider parce que vous savez pas non plus.
Parce qu'elle m'a dit plein de trucs. On a beaucoup parlé.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, regardez bien Philippe Rebaud.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'une. T'es trop gros.
Bah, c'est pas loin.
T'es trop petit.
Faut que tu manges moins.
Tu grandiras jamais.
Fais attention, fais du sport.
Et donc, fais du sport.
Bouge-toi, mange-toi, range ta chambre.
Bah allez, on va dire que Jérémy était pas loin.
S'il te plaît.
C'est rentre ton ventre.
Tiens-toi droit.
Comment ça rentre ton ventre ? Vous étiez potelé ?
Ouais, j'étais potelé. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est
passé ? J'étais un peu plus que potelé et et je me tenais pas très droit. Donc elle me disait rentre ton ventre et tiens-toi droit.
Et pourquoi potelé ? Vous étiez.
Parce que je sais pas.
Mangez bien la cantine.
C'est les gosses qui profitent. Je pense que ma mère était bonne cuisinière.
On
vivait au Maroc. Enfin, c'était des mélanges de cultures.
Ouais.
Voilà, c'était bon, j'aimais le gras, j'aimais le
pain,
sucre, et j'aimais aussi pas mal rien foutre, ce qui n'est pas de ma faute, je vais aller au bout du truc, c'est parce que tout le monde dit, mais pourquoi tu faisais pas du sport et tout ça Moi j'avais des gros culs de bouteille, ça compliquait énormément ma vie de sportif par exemple, ça s'est amélioré après en vieillissant. Mais démarrer avec des grosses lunettes, avec des verres cassables à l'époque et tout ça, fait que le sport, t'en as pas tellement envie.
Et ben justement, n'en dites pas plus. On enchaîne avec la question suivante. Philippe a joué en National 3 de quelle discipline ?
Basket.
Eh ben non, pas basket.
Non, handball.
C'est un sport collectif.
Aviron.
C'est un sport collectif ?
Collectif.
Volley ?
Volley, bravo.
Ah bah oui.
Bravo.
Et oui, les grandes tiges.
Je me demande si un de vos gars sur France Inter, un certain Bruno Duvic, qui a pas fait partie un peu de la même équipe que moi, ou mais il était plus jeune, hein, donc il devait être en junior ou un truc comme ça. Je me demande s'il a pas joué avec un de mes frères. Il me répondra.
Duvic, il a fait du jokari, hein,
champion régional. Il a fait du volley, moi.
Vous avez, fait du volley pendant plus de 20 ans, je crois, c'est ça?
Une vingtaine d'années, mais.
Voilà. En N3, c'est quand même pas rien.
Pas tout en N3. D'abord, il y a les débuts et tout ça.
Donc régional, départemental.
Et la N3, c'est un passage, mais en gros, je suis upgradé. C'est ça l'avantage des sports collectifs. Je me suis associé au bon gars. Hein, parce que c'était vraiment pas. Hein. Moi, j'y allais pour voir les copains. C'est-à-dire que.
Ah, c'est pour ça que vous avez fait
un short, mettre un survêt, c'est pas mon. Voilà. Après, il se trouve que j'étais grand, donc en m'entraînant pour voir les lins, je suis devenu.
T'es le seul à jouer en jean.
Ouais, en tout cas, j'étais le seul à aller au déplacement en tenue civile, parce que je supporte pas l'idée de 10 gars en survêt, en claquette.
Le collectif, non, c'est pas le truc, genre le groupe, on y va, on est habillé pareil.
Voilà, c'est ça, non, ça, non.
Ouais, non, ça,
et surtout, pas en survêt.
Ouais. Ça, c'est bien.
Aujourd'hui, c'est peu probable de vous croiser.
Pas ville, enfin, je sais pas, il y a un truc.
Aujourd'hui, c'est peu probable de vous croiser avec un survêt. En train de vous promener le dimanche matin?
Non. Ouais, ça, il y a peu de chance. C'est, je crois que je l'ai tenté une fois et une de mes collègues de travail, nommée Karine Viard, m'a dit ça. Ça s'appelle mettre un genou à terre. Depuis ce jour-là, je ne peux plus.
C'est
je
renoncé.
La salue, je l'embrasse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, je la rassure.
C'est renoncé,
jamais...
quoi.
Ouais, c'est renoncé.
Ouais, d'accord. Okay.
C'est personne n'a l'air de Jennifer Aniston avec des grosses chaussettes et un. Enfin, vous voyez ce que
je veux dire. Ouais, après, si on veut ressembler à Jennifer Aniston,
un mec qui va boire un coup bourré. Enfin, il est bourré quand même.
Pourquoi est-ce que Philippe. Et finalement très, très pratique pour les producteurs de films aussi.
Il est pas cher.
Il leur fait faire des économies. Non, c'est pas tant pour le cacher. Pourquoi
est-ce qu'il
leur fait
faire des...
Il mange pas
absolument.
À la cantine.
Il vient avec ses propres fringues.
Ouais, enfin c'est pas moi qui l'impose, hein. C'est que finalement entre les problèmes de taille, de
des
personnages qu'on me fait jouer aussi, hein, parce que si je devais jouer président de la République, par exemple, venir avec mes propres fringues,
c'est très compliqué.
Ça devient un autre monde en tout cas.
Là pour ton chien,
d'ailleurs, c'est peut-être sympa. Mais
là, pour ton chien, c'est vos fringues. Non, il y a le costume du capitaine.
Ouais,
du
mais ça tombait bien comme j'avais été stagiaire au bateau mouche, j'avais gardé le. Non, c'est pas vrai. Donc pour ton chien, aucune des fringues n'est à moi quasiment. Hein. Non, mais c'est vrai que ni le costume. Enfin.
Et vous réussissez à avoir un prix pour un film où vous venez avec des fringues à vous en plus, un petit peu quand même.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Mais, voilà. Mais non, mais c'est pas. C'est, non, mais c'était pas du tout mes fringues. Hein. Il y a des
travaux. C'était ses sous-vêtements en tout cas.
Ah ouais. Voilà.
Ça, c'est sûr.
J'en porte pas.
On saura donc tout. On continue.
D'où la gêne du jogging.
Savez-vous qui est Herbertine du berceau de B?
Moi, je sais, oui. Mais j'ai pas envie de répondre tout de suite.
Laisse-les trouver, c'est ça que tu veux dire.
C'est le projet d'un film.
Non.
C'est une voiture.
Herbertine du berceau de B.
C'est une voiture.
Voisine. C'est pas une voiture, c'est pas une voisine non plus.
C'est un animal.
C'est une chienne.
T'as dit chien, qui a dit chien là?
J'ai dit chien.
Ouais, chien, juste avant. Non, il a dit avant. Ouais.
Alors, c'est le vrai nom de.
De votre chien.
De Lady.
De Lady.
Lady, c'est son pseudo. Non, non, ça a été créé assez vite parce qu'on a très vite vu. L'inconvénient d'appeler ton chien dans le parc, Herbertine du berceau de B vient ici. ça dit son pédigré, ça dit qu'elle est la fille de son frère et tout ça. Oui, puisque c'est des chiens de race, hein, donc c'est très très consanguin.
C'est, quoi, c'est quel genre de chien?
C'est un basset hound.
Hound,
voilà.
Hound basset.
C'est un basset.
D'accord.
Voilà. Non, mais c'est un chien très bas. C'est une table basse qui sent fort.
Ah, mais je la connais. Je la connais.
Tous les gens qui la connaissent s'en souviennent.
Ça donne très très envie. Oui.
Je veux dire que je perds beaucoup d'amis de ça parce que tout le monde pense que c'est une blague. Donc jusqu'à ce que je l'emmène, tout le monde me dit mais c'est trop marrant ta blague avec ton chien qui pue. Une fois que tu l'as fréquenté 10 minutes, tu fais ah ouais ton chien pue vraiment. Et il y a ceux qui ont envie de vomir carrément.
Ouais,
ah
ouais. Ouais. Et vous parvenez à entretenir une forme d'amitié avec Reda Kateb et son chien Paolo.
On se voit en extérieur.
Ouais. Ah ouais. En extérieur.
Les amis, il faut que je les vois en extérieur avec mon chien.
Les jours de vent.
Ouais. Et on vous encourage à aller voir mon chien stupide la semaine prochaine.
Tout à fait.
Voilà, comme ça, on fait la tournée.
L'émission d'hier, ça m'a bien fait envie.
Il faut voir Hors Norme aussi avec Reda et Vincent Cassel. Et ben voilà, vous avez un gros programme. Vous avez déjà vu?
Ouais.
Ah ouais, ça vous a plu aussi?
Ouais.
Vachement.
Pas du tout. Je dirais. Je voulais te parler Reda, c'est pour faire des films comme ça.
Je sais que tu m'écoutes.
On se voit tout à l'heure à mon
tour. Une petite dernière. On sait que Philippe vit avec Romane Boringer dans un sépartement, puisqu'on a parlé de. On avait présenté ici l'amour flou. Ouais. Chacun donc a son propre logement avec une pièce qui permet donc de faire circuler les enfants et d'organiser la vie comme ça à deux sans être à deux. Mais il y a quand même une asymétrie entre les deux statues, entre Romane et Philippe.
Il y en a un qui a un plus petit appartement.
Non,
les plafonds sont plus hauts pour.
Oui. La taille. Un peu. Vous avez, il est plus petit le vôtre?
Oui, oui, mon fils est persuadé que j'habite dans le bureau.
Ah oui, d'accord. Oui,
il croit que j'habite dans le bureau de sa mère, en gros. Hein. Donc c'est pour en dire la taille.
Et c'est Philippe qui paye la taxe d'habitation.
C'est en lien avec l'argent, en effet.
Ah, ouais.
C'est en lien avec la...
Le prêt de la maison?
Oui.
Il paye plus?
Ah,
oui. La part est égale alors qu'il vit dans un
non,
truc...
Ouais,
moins...
ouais.
Non, c'est pas la part...
Je suis pas à ce détail-là. Ouais.
Ah, c'est tout à fait le prêt.
Ils n'ont pas le même statut par rapport à l'appartement.
Il y en a un qui est locataire.
Et ouais.
Ah oui,
et
ouais.
Et c'est Philippe qui est locataire.
Et c'est Philippe.
Oui, il est locataire de son appartement. Génial.
Je suis locataire, moi. Ouais, ouais.
Ah, enfin, elle est propriétaire de sa partie. Avec votre propriétaire.
Non, pas du tout. Elle est propriétaire de sa partie. Moi, je paye un loyer à un propriétaire, par ailleurs.
Pour ça aussi, vous pourriez avoir un prix. Je ne dis pas lequel, mais
vous pourriez avoir un prix.
J'imagine que depuis la sortie du film, depuis.
Ça va mieux financièrement?
Non, mais en revanche, je trouve que ça a beaucoup affusé dans l'esprit des gens, l'histoire de ce sépartement, cette façon de continuer à vivre ensemble sans être des amoureux, sans vraiment vivre ensemble, tout en favorisant quand même le foyer familial. Ça, on vous en parle beaucoup, j'imagine.
Pour l'instant, il n'y a pas d'expérience. Enfin, on n'a jamais été appelé. Oui, ouais. Personne nous a appelé en disant venez visiter notre sépartement
tenter,
ou
ouais.
L'école du sépartement ou je sais pas quoi. Non. Mais d'abord, je pense que d'autres gens l'avaient fait avant nous.
Oui.
Nous, il se trouve qu'on a fait un film, mais d'abord, on a entendu des gens qui avaient déjà fait ce genre de choses. Et après,
et ça marche.
Ouais. Ben ouais.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Sortez-moi de là.
On est en antenne. Ça marche très bien. On s'entend vachement bien.
C'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple forcément.
Non, ça va très bien, c'est très ludique, c'est assez bordélique en réalité, pardon. C'est assez, voilà.
Et ça vous tracasse que ce soit bordélique?
Ah non, au contraire, c'est ludique, j'aurais pu dire ludique.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bordélique, c'est du côté de Chiroman, ça c'est autre chose, c'est rapport.
Vous, c'est plaisant.
Allez. Moi, c'est plaisant, c'est rangé.
Et ben ludique et bordélique, c'est Temps de chien en fait aussi, ça correspond bien à ce film qui sera diffusé sur Arte le 1er novembre à 20h55, prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction de La Rochelle pour le réalisateur Édouard Deluc, qui doit être ravi.
Pour le film, j'aimerais bien qu'on... Ouais, c'est pas pour Édouard Deluc, c'est pas...
Non, parce que j'ai peur après qu'on me dise
finalement.
Oui. Avec Pablo Poli, Laure Calami, Élodie Bouchez, Jean-Luc Bidault, Solène Rigaud, on a évoqué l'itinéraire de ce père capitaine de bateau-mouche qui va perdre temporairement son boulot. Avant de perdre son boulot, il était déjà un peu ric-rac, il faut dire.
Oui, c'est ça, il était pas... Voilà, il avait un peu perdu confiance en lui, je pense. Hein. C'était pas... Je pense pas que ce soit le mec à la plus haute estime de lui-même.
Ouais.
Voilà, donc c'était déjà un peu chronique d'un vacillement annoncé.
Ouais, et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir ce contraste-là.
Il
n'était
déjà pas très au-dessus de la ligne de flottaison pour garder la...
Ouais. Hein, et là, c'est le naufrage.
Du coup,
un peu à la dérive.
Un peu en dessous, voilà, un peu à la dérive.
Ouais.
Enfin, voilà, on va pouvoir être décliné.
Et on voit ce contraste-là assez facilement aussi dans l'esthétique même du film, c'est de choisir de faire de vous, de votre personnage en tout cas, un capitaine de bateau-mouche, avec ce costume très apprêté, avec pour cadre Paris, puisque les touristes sont baladés là, avoir une ville somptueuse, magnifique, propre, avec
propre.
Limite... Oui, propre. Bah, en tout cas, de ce qu'on voit
quand
du bateau.
Quand on est sur un bateau mouche.
Voilà, quand on est du bateau. Mais c'est intéressant de voir le contraste aussi avec, tout d'un coup, le soir, quand il doit récupérer les enfants, la difficulté, le quotidien, la précarité, et de placer le personnage à cet endroit-là, j'imagine que pour Édouard de Luc. Le réalisateur, c'est un véritable parti pris.
Oui, j'imagine aussi.
Ouais. Non, mais je sais pas comment il vous a parlé rôle, comment il vous a. C'est pas la première fois que vous collaborez ensemble, c'est votre troisième film ensemble.
Ah oui, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se parler beaucoup.
Ah, d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Mais il va falloir nous parler à nous aujourd'hui quand même.
Oui, c'est vrai. Quoi? Je dis pas les bons trucs. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi la question? Ok, je vais répondre sérieusement.
Non, quand il vous a présenté le film.
Oui, mais je sais pas, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Je pourrais pas le synthétiser mieux.
Ouais.
Parce que ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que lui-même ait pensé à tout ça. Il a écrit ça.
Ouais.
La philosophie de ça, elle ne vient qu'une fois que le film est fait, je crois, comme pas mal de projets, je pense.
Ouais.
C'est une fois qu'on voit. Mais après, évidemment, que c'était en germe, ça parle de tout ça.
Ouais.
Oui.
Il raconte le metteur en scène, donc Édouard Deluc, il est tombé sur une interview à la radio de l'histoire d'un père de famille avec deux enfants qui perd son boulot du jour au lendemain et très rapidement, il se retrouve à dormir avec sa femme et ses deux enfants adolescents dans sa voiture. Cette histoire-là qui
est là sans
qu'il devienne ordinaire.
Oui, mais ces histoires-là, elles sont... Enfin, je n'ai pas besoin de lire un fait divers pour savoir qu'il y en a... Que c'est, normalement, ça devrait remplir les pages des journaux. Et ça n'est pas des faits divers, c'est la vie des gens.
Ouais.
Donc, et je pense qu'il est concerné par tout ça, comme moi, comme sans être des grands militants de cause et de... Voilà, on fait attention à tout ça, évidemment.
C'est ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter? Au-delà du fait qu'on a compris que vous avez un lien particulier avec le réalisateur et que c'est un copain et qu'en gros, on peut pas... Vous lui dites jamais non, quoi.
Ouais. Non, je peux pas lui dire non. De toute façon, j'aime ce qu'il fait.
Oui, bien sûr.
Peut-être que... Oui, bien sûr que ça me plaît de parler de ça et des gens un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas très bien comment la vie s'organise et des fois elle vous tape dessus sans même que vous ayez compris pourquoi elle vous tape dessus, vu que vous n'étiez pas volontairement méchant ou je sais pas comment dire.
Ouais, pas mal intentionné.
Ouais. Je sais pas comment dire, on n'est pas tous conformés pour des vies de libéraux.
J'ai l'impression que depuis que vous avez reçu un prix, vous êtes moins dans l'empathie.
Je suis beaucoup moins dans l'empathie.
C'est
ce qui s'appelle le melon.
C'est ça.
C'est vrai que grâce à ce prix et grâce à ce film, j'ai basculé de côté. Je ne vois plus que la vie du bon côté.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça pendant toute l'émission avec cette histoire de prix tous les deux.
Bon, attention, Philippe Robot, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais le père Albert a vu votre film. C'est à vous, mon père.
Négatif.
Ah, Maréchal.
Aujourd'hui, c'est moi, Ganache.
Maréchal
Ganache, je remplace le père Albert, soit dit en passant, qui a été arrêté avec Nagui pour hooliganisme à l'issue du match Benfica-Lyon et aussi une affaire de traite des blanches. Oui. Mais revenons, s'il vous plaît, c'est mon moment. Revenons au film pour lequel vous nous rendez visite, vous faites l'honneur et l'avantage, Monsieur Robot. À ce propos, merci. Avant cette émission, comme je faisais remarquer à Daniel Morin que cette semaine, avec la sortie de Mon chien stupide et Un temps de chien, le cinéma français rendait un hommage appuyé au clébard, Daniel m'a répondu avec un humour aussi éculé que navrant. C'est vrai. D'ailleurs, ce matin, on reçoit un sacré cabot.
C'est vrai que c'est navrant.
Je vous le fais pas dire. En revanche, le temps de chien, c'est bien la météo de ma vie. Celle du quotidien que j'endure au vieux gland, mon EHPAD, où je croupis. Une vie, une survie plutôt, à côté de laquelle celle que vous menez dans le film, Monsieur Robot, est une sinécure, un doux farniente, avec notamment alcool à volonté. Vous en mettez dans le cornet hein, pendant le tournage. Alors que moi, au vieux gland, ils m'ont même confisqué le flacon d'eau de Cologne que je buvais en cachette. Et je vous parle pas des menus. Jambon purée jambon, jambon purée jambon,
pas mal, ça.
Mixé direct avec le carré gervais et la compote de pommes pour aller plus vite, c'est comme ça que ça se passe. Il y a néanmoins deux choses que Jean, votre personnage, et moi, nous avons en commun, Monsieur Robot. Primo, l'uniforme, on en a parlé, même si le vôtre est celui d'un marin d'eau douce, c'est un uniforme. Autre point commun, Deuxio, la fréquentation d'un dancing à gigolo.
La quoi non, c'est
d'un
pas
dancing
vrai.
À gigolo.
Oui, c'est vrai.
Et là, je suis ému parce que c'est dans un dancing semblable, la cabane bambou à Saigon, que j'ai rencontré Germaine, ma future épouse. Elle venait y chercher l'amour en dansant le tango. Et tout en m'offrant rondeur du sein et de ses hanches artificielles, elle me croqua soudain le lobe en me murmurant exactement, c'est troublant, la même phrase que Brigitte Fossé, alias Angèle, dans le film, très belle, vous susurre. Il ne faut jamais différer aucune joie. Alors, ne différez donc aucune joie, Monsieur Robot. Et là, je m'adresse aussi aux auditeurs, surtout pas celle de voir Un temps de chien sur Arte, qui a eu un prix.
On a cru que t'étais mort là, que t'avais fait un AVC pendant 4 secondes.
J'ai cru que j'allais vous quitter, mais je vais le faire maintenant. Bonne émission.
Merci Maréchal.
J'ai des moments où je m'inquiète hein, pour Maréchal, pour le père Albert, hein. Je me dis que
ça arrivera bien un jour.
Oui, et bah, si tu peux éviter en direct.
Défibrillateur.
Si, moi, je trouve que c'est mieux.
En direct, c'est mieux.
C'est
le genre de fin que vous souhaitez aussi.
Ouais, avec des gens en tout cas autour.
Ouais, pas tout seul.
J'ai pas envie d'être tout seul. Moi.
Non, mais vous serez pas tout seul. Vous inquiétez pas. On va s'organiser. On va trouver une solution. Temps de chien sur Arte à partir le 1er novembre à 20h55, prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction de La Rochelle. Une comédie. Alors, moi, je dirais plutôt une comédie.
Moi aussi, je dirais ça.
Généralement, on dit comédie dramatique parce qu'en effet, on n'est pas sur. On est sur des thématiques de société un petit peu fortes. Je sais pas comment vous définiriez vous-même.
Moi, j'ai pas. Oui, c'est ça. Non, mais pareil, la comédie dramatique, on sait plus comment. Enfin, ce genre de film qui parle en gros de la vie, hein, puisque, enfin, d'une vie qui est entre deux, quoi, qui est ni gay, ni triste, ni. Enfin, voilà, c'est pas un film social, c'est pas Ken Loach, donc. Donc déjà, il y a une partie de moi qui est comédie. Enfin, voilà. Mais je trouve qu'il faut inventer un nouveau nom pour ce genre de film.
Clair.
Parce que j'en fais plein. Ouais, pardon. C'est des films comme ça.
C'est des films comme ça. Et ben voyez donc ce film comme ça qui s'appelle Tant de chiens sur Arte. Alors, j'ai pas parlé d'un personnage hyper important qui va devenir un peu votre duo, votre double. C'est Pablo Poli qui incarne le personnage de Victor. Parce que finalement, même dans des situations les plus désespérées, on se rend compte aussi, c'est peut-être un peu le message aussi un peu positif de ce film, que on n'est pas tout seul dans la galère et qu'on peut même s'unir pour avancer.
Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais d'accord pour faire ce film, c'est cette espèce d'entraide entre une ancienne génération, qui est passée à côté, mais qui a une théorie plutôt positive, enfin qui pourrait très bien conseiller ce jeune, et ce jeune qui m'apporte la patate, que je n'ai plus moi à mon âge et tout ça. Donc j'aimais bien cet échange de compétences.
Lui rêve d'être musicien, il n'a pas forcément tous les talents,
on va dire c'est comme aucun,
ça. Ouais. Il passe une audition devant les gens de la RATP.
Pas Pablo, le personnage qui joue, parce que Pablo joue magnifiquement de la guitare.
Et donc il nous fait une sorte de casting, comme c'est le cas pour jouer dans le métro, parce qu'on joue dans le métro avec autorisation. Et donc il passe devant un jury et il interprète à la guitare une sorte de haïku, un peu désespérant. Et donc il est complètement lui aussi à la dérive, seul, n'ayant pas la responsabilité d'enfant, et se retrouvant à squatter un appartement que vous aussi vous allez squatter avec vos trois enfants, vous allez squatter ensemble, et je trouve que vous faites un très beau duo tous les deux. Il y a une vraie alchimie, il y a quelque chose. Vous connaissiez avant ou pas?
Non, on s'est rencontrés. Enfin, moi, j'avais vu dans Passion et tout ça, mais je ne le connaissais donc pas dans la vraie vie. On s'est rencontrés pour une lecture et c'était une espèce de coup de foudre. En fait, je peux pas le regarder sans me marrer. Je ne sais pas pourquoi, il a une façon de retrousser ses lèvres quand il sourit, qui moi me fait marrer. Et puis il a cette tendresse. Enfin, on s'est retrouvés sur la poésie, par exemple.
Tous les deux, vous avez ça en partage.
C'est un petit poète, mais bon.
C'est un poète en germe.
C'est un poète en germe.
Oui, c'est ça.
Et c'est mes enfants.
Ça a été facile de tourner ensemble ou pas? Parce que justement, si vous vous marrez à chaque fois.
Oh oui, mais du coup, oui, ça rend les choses faciles. C'est pas facile de tourner avec nous, peut-être, mais pour nous, ça a été très très facile. Il est très bon partenaire. On était d'accord pour profiter du moment.
Alors, il faut dire que dans le film, la rencontre, c'est toujours important de savoir à quel moment et comment les personnages se rencontrent. Vous pénétrez dans un appartement avec vos enfants et lui est comment dire très occupé à regarder un produit.
Un film léger.
Olé olé, quoi. C'est comme ça.
Et il met un peu de temps à se rendre compte qu'on est là. C'est d'ailleurs ma fille qui a un petit... qui jette le premier coup d'œil sur ce qu'il est en train de regarder.
Voilà, ça c'est
n'est pas un youtubeur.
C'est la rencontre avec Pablo Poli et avec Philippe Rebaud dans ce film Tant de chiens.
Alors lui aussi a regardé des trucs sur internet qui sont plutôt dégoûtants. Aujourd'hui il est lavé, merci d'accueillir Jérémy Crédville.
Merci. Du coup, il est pas là, Nagui, c'est sûr.
C'est sûr.
Il va venir pendant l'émission.
Non,
je suis un peu ému parce que je vais pouvoir finir mes phrases. Ça va faire bizarre. Parce que ce matin, j'ai vu une pub pour un couteau. L'argument de vente, c'était coupe plus que Nagui. Vous voyez, donc, un seul être vous manque et tout le monde est content. Moi, ça me donne envie de chanter, tu vois. Nagui n'est pas là, Nagui n'est pas là. Oh, hé, oh, hé. Hey, Nagui n'est pas là, Nagui n'est pas là. Je vais pas être coupé des phrases tout en entier, ohé, ohé, sans être interrompu, ça va me changer, prends ça Nagui, parce qu'il ne peut pas s'empêcher, ohé, ohé, de parler. Pardon, je me suis emballé.
On l'applaudit, qui est devenu bien chou.
Pablo Poli, quoi.
C'est la couleur de cette feuille. Je me suis même suremballé. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, le suremballage. Parce qu'on en parlait entre deux émissions avec Alexis Le Rossignol.
La transition, j'adore. Génial.
Non, on en parlait entre deux émissions avec Alexis Le Rossignol qui me disait, t'as vu, même les emballages, ils ont été augmentés. Et c'est vrai, personne ne s'étonne du fait que quand tu commandes un stylo sur Amazon, le carton que tu reçois fait la taille d'un lave-vaisselle. C'est fou. J'en parlais ce matin à un clodo qui dort sur des cartons. Je lui dis, Daniel, comment t'as eu tous ces cartons? Et en fait, il avait juste commandé une trousse. Il y a de plus en plus de produits, ils sont emballés dans un emballage lui-même emballé. Tu sais, comme une meuf dans une pièce où il fait 19 degrés, un t-shirt, un pull, un plaid. Prenons par exemple un lot de cookies, de acheter un gratuit. Alors là, tout de suite, on fait...
Ouais, c'est vrai.
Je pensais que j'allais être coupé. L'habitude. Non, mais c'est vrai. Vous avez vu à quoi ils ressemblent ces paquets de cookies? Pour ce lot de cookies, t'as 3 paquets en carton mythomane, c'est 3 paquets de cookies, sont eux-mêmes entourés de cellophane, et tous ces cookies rangés par deux dans sachets fraîcheur, soi-disant pour être bien à l'abri d'humidité, lumière, chaleur. Mais pourquoi vous faites ça? Allô, 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 pour manger un cookie, ça me prend 2 heures. Le sachet fraîcheur, le carton, le cello, un manchot qui veut ça, de faim, il meurt. Voilà, c'était Pookie.
Ouais, non, c'est dingue. Ouais, rien à
Il y a tout sur France Inter. Non, ce qui est dingue, c'est que le suremballage touche beaucoup les légumes bio. Légumes bio, vous voyez ce que c'est? Mmh. C'est ce qu'on appelait avant les légumes. Et moi, quand je vois les rayons de fruits et légumes, j'ai la même réaction que quand on reçoit Liane Folly. Oh là là, trop de plastique. Dans le secteur, on l'embrasse. Elle est adorable. Je l'adore. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime.
On t'aura pas de prix.
Bref, dans le secteur alimentaire, l'emballage représente jusqu'à 20% du coût du produit fini. En gros, les légumes bio qui sont 20% plus chers pourraient être 20% moins chers s'ils n'étaient pas emballés. Ouais.
C'est pas vrai.
Si. Au milieu des Batavia, des radis et du rutabaga, sur emballage. Voilà, c'était désirless emballage. En produisant des produits avec moins d'emballage, on peut réduire des déchets de 26 kilos par personne et par an. 26 kilos, c'est le poids d'un mannequin Gucci, hein, c'est vous dire. Surtout que seule la moitié de ces emballages sera recyclée, l'autre moitié sert à rendre l'eau des océans plus compacte. Mais alors, pourquoi tant d'emballage? Eh bien, la réponse, c'est parce que 7,9 milliards d'euros. C'est ce qu'ont gagné les industriels français de l'emballage en 2017. On leur a dit, vous voulez sauver la planète ou 7,9 milliards d'euros? Ils ont dit, on prend l'échec. Les fruits emballés, en fait, le fruit emballé, c'est comme le gamin à l'école qui a une mère qui le surprotège. Je veux pas que t'attrapes un rhume. Mets ton écharpe, ton bonnet, ta cagoule, tes gants, tes moufles, ton casque et tes genouillères. Mais maman, on est en août. Ah oui, pardon. Mets aussi de la crème solaire, une casquette, un bob et un parasol. Mais maman, je veux avoir l'air con. Pas de gros mots. On dit avoir l'air bio. Ah, c'est pareil. En même temps, il n'y a pas que les fruits. Je sais. Il n'y a pas que les fruits qui font ça. Les humains aussi, pour pas être contaminés, ils mettent du plastique sur leur courge. Et je peux vous dire que Freddy Mercury et Thierry Le Luron, ils n'étaient pas très bio. Ouais. Non, bah, finalement, ça aurait peut-être mieux comme couple.
Ouais, je veux dire, on peut
se garer avec votre vie. Bravo. La bande originale. Jamais crédible que vous pourrez retrouver le 4 décembre à la Cité des Congrès. C'est à Perpignan.
Eh ben bravo, Jérémy, bravo. Bravo. Tant de
quel
chiens.
Talent.
La fiction dont on parle aujourd'hui avec Philippe Robot, qui sera sur Arte le 1er novembre à 20h55.
Jour de la Toussaint.
Oui, ouais. L'histoire d'un capitaine à la dérive. Ouais, c'est vrai. T'as un message
aussi,
à passer.
Je me suis fait la même réflexion.
Non, mais je trouve que c'est encourageant.
C'est une bonne programmation.
C'est,
bah, c'est bien. Tout le monde est à la maison.
Oui, c'est ça. Tout le monde est rentré, en fait. Enfin, voilà.
Juste après le cimetière. Hop.
Voilà. Un petit temps de chien.
Voilà, un petit, un peu de sourire, comme ça.
Une bonne chrysanthème pour une place offerte.
Ça, je pense qu'Arte va être content quand on leur dira qu'on a vendu le téléfilm comme ça. On va aller hop, après le cimetière, tac, ton chien.
Pas bien à la
promo. Je sais pas.
Est-ce qu'on a dit qu'il avait reçu un prix, le film?
À la Rochelle, c'est ça.
Allez-y, faites la promo bien. Allez-y, je vous écoute.
Non, c'est les questions. Je vais répondre proprement aux questions, c'est ça, j'ai compris.
Non, mais vous le faites hyper bien. S'il fallait donner envie à nos auditeurs de voir Tant de chiens le vendredi 1er novembre à 20h55, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Moment Philippe Robot, on le laisse.
Non, mais ça, c'est. Moi, je sais pas faire ce genre de. Alors, moi, je dirais pour. Je veux voir Paris depuis un bateau mouche pour ceux qui n'ont jamais eu les moyens de le prendre, pour voir des moi j'avais jamais pris de bateau mouche.
Ah, vous l'avez
donc,
jamais fait?
Non, j'avais jamais fait. Deux jours de nuit et surtout j'en ai fait plein. Donc
mettez un peu de fun.
Ouais. Alors il y a des scènes très très marrantes avec Pablo Poli qui est hyper marrant. Il est on le voit en peignoir, c'est très drôle.
Oui, c'est vrai.
Il y a une Lorca Lamy absolument géniale. Il y a un Stéphane Wojtowicz, donc le flic absolument génial. Enfin, il y a des grands morceaux de bravoure.
Et puis on a eu
un prix à La Rochelle, ce qui n'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait objectif. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il est génial. Moi, j'ai pas inventé ce truc. À La Rochelle, ils l'ont dit.
Ouais, voilà. Donc c'est, ça a été tamponné, ça a été validé. En effet.
Alors que je croyais que je partais au festival de La Rochette. J'ai joué. J'ai joué en régional au volet et on avait tout le temps La Rochette. Va savoir pourquoi. Et du coup, là, non, c'était une blague. J'ai essayé un truc de fun.
C'est bien vendu, c'est bien vendu. On a très envie, je pense que tout le monde a envie de voir maintenant le film. Et en effet, quand on parle de moments de bravoure, je pense à un moment particulier de Lorca Lamy, hyper émouvant, parce que on connaît Lorca Lamy dans vraiment le registre comique. On connaît sa capacité tout d'un coup à donner un rythme assez incroyable à la fiction, que ce soit dans 10% ou dans les autres films dans lesquels on a pu la voir. Mais il y a un véritable moment où elle prend votre défense au moment où on doit vous mettre à pied pendant 3 mois.
Ouais. Elle me défend, elle tire les larmes de tout le monde, y compris moi, pendant le
pour de vrai.
Pour de vrai. je n'étais pas filmé puisque c'était elle, mais moi je chialais comme une madeleine.
Vous avez vraiment cru qu'elle vous aimait bien à ce moment-là?
Ouais, c'est vraiment vous qu'elle m'aimait, j'ai vraiment cru que j'étais viré.
Il faut expliquer.
J'ai vraiment cru, alors que j'avais pas ce boulot. Enfin, c'est très étrange comment elle m'a fait.
Il faut expliquer qu'il y a une sorte de. Il y a une sorte de petit conseil, en fait, où il y a le patron de l'entreprise, le pilote, le copilote, en fait, avec qui vous avez eu quelques.
Oui, d'ailleurs, je suis un peu viré pour une injustice. Enfin, c'est un peu une injustice, je dois le dire. Enfin, je veux pas spoiler parce que c'est un peu un moment fort du film.
Parce qu'il pilote mal, le copilote.
Il pilote hyper mal, il fait n'importe quoi.
Je sais pas si c'est une injustice, mais c'est-à-dire que le patron des bateaux mouches se rend compte quand même que vous êtes en train de dériver un peu sévèrement et qu'il faut mettre, faut anticiper éventuellement les problèmes.
Mais la raison pour laquelle on vient, c'est voilà, on me laisse pas l'expliquer, mais voilà, et bon.
C'est plus que discutable. En tout cas, voilà, ce moment de bravoure de Laure Calamy qui tout d'un coup reproche un peu aux employeurs de laisser tomber les gens au moment où ils ont le plus besoin d'eux, en fait. C'est un peu ça l'idée.
Tout à fait.
Quelques dates en musique qui ont marqué votre parcours brillant. Un prix en ce moment de la Rochelle. Formidable. On commence en 1965. C'est extrait de la BO de Macadam Cowboy, Everybody's Talking at Me.
Ouais. C'est tout à fait ça.
C'est vous, hein.
C'est tout à fait ça.
C'est vous.
C'est bien moi. Bon, alors je
tout ça pour illustrer.
On m'a dit c'est ta date de naissance, mais moi, je suis pas né en 65. Ça, je tenais à le dire officiellement. Mais c'est gentil de me rajeunir un peu. Je suis né en 64.
Ah, c'est vrai.
Et après, je me suis dit tiens, mais la musique de ma naissance, est-ce que je l'ai? Pas vraiment. En fait, j'ai donc pris la première musique que j'ai entendue dans ma vie, qui était à peu près celle-là, mais qui date de 69.
Ouais.
Mais qui fout le bordel dans
la. Non, mais c'est très bien parce que peu importe, c'est ce que ça vous évoque.
Voilà, voilà.
Approximativement, on n'est pas.
Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de pas prendre une chanson. 65.
Et puis ce film,
plus, ce problème que j'étais de 64.
Mais en plus,
et ce film
du coup, on donne de 69.
Non, mais j'ai eu plein de trucs dans ma vie.
Et ce film a reçu un prix en plus.
Et en plus, ce film a. Ben
oui,
Oscar.
Donc,
César du meilleur film.
Si on se replonge dans votre enfance, Philippe Rebaud, donc pas né en 65, mais plutôt en 64, avec une musique qui vient après.
A priori.
Mais ça marche complètement. Vous parlez d'une enfance plutôt.
Mais c'est ça, c'est toute ma vie, je comprends rien.
Vous parlez d'une enfance plutôt joyeuse, heureuse, notamment à Créteil, même si vous êtes né à Casablanca.
D'abord, mon enfance, c'est à Casablanca,
Casa, hein,
de 0 à 8 ans.
C'est quoi les images de Casa qui vous reviennent, là?
Oh, mais c'est ça, un milliard de trucs, je sais pas, des Marocains, de la vie sympa au Maroc, je sais pas, plein Casablanca, c'est-à-dire aussi une ville qui fourmille de partout, mais c'est... Je sais pas, l'océan, j'en sais rien, je sais pas, une enfance, des déguisements aussi, en cow-boy, en indien, enfin, en plein de trucs comme ça. J'ai fait j'ai fait de l'âne dans mon jardin, enfin, j'ai fait des trucs comme ça. Voilà ce qui me revient, mais entre 0 et 8 ans, qu'est-ce qui vous revient?
Et après Créteil, aussi plein de choses.
Ah bon?
Oui.
Mais ouais, non, mais je peux pas tout dire.
Non, dites pas tout.
C'est-à-dire des trucs cachés ou?
Non, pas du tout, mais il y a des souvenirs, bon, voilà, bon.
Et dans quel genre de famille vous avez grandi?
Une bonne famille de métèques, en fait, une rencontre de gens qui se mélangent. Ma mère, enfin, je sais pas comment dire, ouais, des métèques. Des gens sympas, non mais métèques sont péjoratifs, c'est à la Moustaki, hein, je dis ça.
Ouais, ouais.
Des gens sympas, avec qui avaient beaucoup d'humour, c'est pas des chercheurs au CNRS, mais c'est des gens avec pas mal d'humour, assez intelligents, assez ouverts.
On a découvert votre père dans L'Amour Flou.
Tout à fait.
Ouais.
Voilà.
Qui donne.
Je me squatte. Je squatte ma vie. Il est très sympa.
Mais quel air génial, quel air.
Mais
ouais, ouais,
mais voilà, il est à mourir de rire.
Ouais.
Quand vous n'êtes pas son fils.
C'est toujours ce qu'on dit sur les parents des copains.
C'est pas vrai, papa, si tu m'entends, tu me fais bien marrer aussi encore.
C'est pas sympa, en tout cas.
Tu m'as toujours bien fait marrer, ma mère aussi était assez marrante. Non, c'est vrai, on est d'une famille comme ça. Après, bon, voilà.
Et une forme de légèreté, de joie. Après, je ne sais pas si c'est la face publique, mais c'est la sensation que vous donnez.
C'est entre deux, oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est toujours entre les deux. Mais en gros, oui, on essaie de se marrer pour ne pas pleurer, mais c'est un peu comme tout le monde.
En tout cas, moi, je l'ai vu en loge, il était en train de chialer. Fin des années 90.
Ça, c'est l'émotion d'avoir un prix.
Prince avec Sign of the Times.
Et un patron.
Ouais.
Un patron, ouais.
Vous l'avez vu sur scène?
Je l'ai vu sur scène, ouais.
Et ça vous a.
Ah ben, ça m'a retourné, mais ouais. Quand j'y pense, je me dis, c'était en 88, j'ai l'impression que je parle d'années. Enfin, ça fait partie de mon présent, alors que pour des mecs, il y a plein de gens pour qui ça n'évoque rien du tout.
C'est un autre siècle.
Ouais. C'est un autre siècle. Non, mais c'est carrément dingue. Je découvre ça maintenant à 55 ans, que ça y est, il y a une partie de ma vie qui est.
Et si vous en parlez à Pablo Poli, oui, c'est sûr que ça va lui faire bizarre.
Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, typiquement. Ouais. Donc, il y a des choses dont on parle pas. Enfin, les gens nés après 2000, par exemple, je peux pas leur parler, j'ai plus rien à dire. Après, même se sonner en 90, quelque chose, je sais pas quoi leur dire.
Est-ce qu'on a vraiment envie de leur parler?
Non, en plus, c'est ça. J'ai pas envie de leur répondre, j'ai pas envie de leur parler.
Moi, c'est des gens après 1950.
Plus rien à leur dire. Vous comprenez son isolement? Après avoir été magasinier chez Lolita, Lempicka, mannequin chez Issey Miyake et Yamamoto,
Ça, pareil, je vois ça dans mon CV, j'ai dû le dire, mais j'ai fait deux défilés pour chacun de ces gars-là. J'étais pas mannequin, j'étais mec recruté dans la rue, hein, quand même.
Et alors, vous avez défilé, vous êtes donc mannequin?
Ouais, bien sûr.
Et franchement, moi, si je l'avais fait même juste 10 centimètres, le mot, c'était fini. Ce que je veux dire, c'est. Gros, quoi.
Non, mais le temps de dire le mot mannequin, il a été mannequin, ça y est, c'était fini ma carrière de mannequin. Hein. C'était le temps de faire un.
En tout cas, voilà, vous sortez.
Mais j'aime bien l'idée,
ouais. C'est bien.
Moi, j'étais mannequin de fond de piscine, c'est-à-dire, on venait me chercher.
On venait me chercher.
Non, mais voilà, tu vois, comme quoi. Vous allez entrer dans le monde du cinéma en commençant en tant que stagiaire régie. Initialement, vous vouliez être auteur, je pense. Il y a souvent.
C'est pas fini, hein, je compte bien redevenir stagiaire régie, là, j'ai fait une petite parenthèse.
Si je vous dis Richard Bottigan, je crois que c'est un auteur qui a beaucoup compté pour vous.
C'est carrément mon patron, hein, on peut le dire. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là, c'est mon patron. C'est-à-dire, le mec a écrit ce que j'aurais aimé écrire. Alors, j'allais dire, il a vécu ce que j'aurais aimé vivre maintenant, parce qu'il s'est flingué à 45 ans. Mais il écrit exactement ce que je pense. Mm. Enfin, je savais pas que je pensais comme ça, mais c'est en le lisant. Ouais. J'ai découvert ça.
Que ces mots sont devenus un peu les vôtres, mis sur votre réalité. En tout cas, dans
Compris, il écrit des haïkus. Enfin, je sais pas, je sais même pas définir son écriture. Lisez-le. Je dis pas ça à vous, je dis ça en général.
Je dis ça à la vie.
Et ça, vous l'avez laissé de côté, le fait de devenir auteur? Vous l'avez laissé de côté?
De devenir auteur, moi?
Ouais.
Oui, je l'ai laissé de côté parce que j'ai vachement essayé, mais en fait, ça m'angoisse dès que je m'assieds.
C'est
même pas la feuille blanche, je crois, qui m'angoisse, c'est d'être assis.
Alors
j'ai essayé de manger, non, mais j'ai essayé, mais après j'ai découvert ça aussi, que j'ai un cerveau hyperactif. En fait, j'arrive pas à me concentrer.
Comment vous faites sur un tournage? Parce qu'on dit que être comédien, c'est attendre.
Sur un tournage, il se passe pas mal de trucs. Oui, mais du coup, je bouge, je parle à des gens.
Vous êtes intenable.
Voilà, je suis. Non, mais je suis. Je suis très docile pour le coup. Mais j'arrive à m'occuper. Mais dès qu'il faut un peu se focusser, en fait, j'ai compris ça. J'ai une tendance à. Donc j'arrive à écrire quand je fais plein d'autres trucs à côté.
La cuisine, par exemple,
mais je range aussi. Je fais beaucoup le ménage quand j'écris. Mais du coup, j'écris très peu, mais mon appart est vachement bien rangé. Mais voilà, j'arrive pas à laisser tomber et en même temps, j'y arrive pas, donc je sais pas.
Peut-être la bonne formule, du coup.
Je suis pas loin de ça, je suis en train de réfléchir à écrire une phrase.
Vous travaillez un peu là-dessus, là? Vous travaillez un petit peu personnellement?
Je parle à beaucoup de gens qui me coûtent de l'argent.
Oui, je comprends.
On part en 2013. Herman June.
Et on vous retrouve à l'affiche d'un film d'Edouard Deluc, justement, Mariage à Mendoza. Vous partagez l'affiche avec Nicolas Duvauchel et Benjamin Biolay. Une belle, belle bande.
Une brochette gagnant.
Je voulais pas dire la suite.
Une belle, belle bande.
Bande de quoi,
paumée en Argentine.
Voilà, l'histoire de deux frères qui débarquent là-bas pour un mariage, le mariage du cousin. Ouais. On est avec une bande originale, en plus, qui est signée Herman June.
C'est celle-là, Herman June, c'est ça.
Se retrouver avec, en plus c'est votre premier rôle, premier rôle, on va dire, avec Biolay et Duvauchel. Vous êtes
une belle brochette. Alors il se trouve que
une belle entente.
Biolay est resté moins longtemps que nous, mais il a quand même passé une bonne semaine. Mais heureusement c'était vers la fin, puisqu'on était bien épuisés. Et avec Duvauchel, enfin des mecs qui viennent tourner un film en Argentine, un peu paumé dans l'Argentine, dans le nord de l'Argentine. On n'a pas fait que Buenos Aires, ça je veux dire. C'était assez marrant. Je me souviens pas du tout du tournage.
Ouais. C'est vrai.
T'es dans les vignes.
Très peu de. Je me souviens des chambres d'hôtel, de pas mal de trucs. Mais c'est ce que je veux dire, c'est dans un espèce de flou argentin.
Et c'est encore du cousu. C'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Il y a un truc. Vous bossez avec Edouard Deluc sur le scénario, vous insufflez des choses.
Non, il faut le voir comme mon. C'est mon René, quoi. Céline Dion, ouais, non, mais ce que je veux dire, on s'est connus comme ça.
J'étais pas tout de suite, c'est, ouais, non, mais
c'est pour donner une idée de ce que c'est pour moi, Edouard. C'est, bien sûr, d'autres gens m'avaient fait un peu travailler avant Edouard, m'ont fait bosser sur des courts-métrages, et même pas. Mais Edouard, c'est mon Pygmalion, quoi, il m'a révélé. C'est, voilà, et c'est, je suis sa muse, il dit que je suis sa muse.
Vous avez un côté muse. Hein.
Probablement.
Vous estimez que votre carrière, elle a commencé vraiment quand, en fait, pour le. Tardivement ou pas? Parce que vous tourniez beaucoup avant, de toute façon.
D'abord, j'arrive pas à considérer ça tellement comme une carrière, donc je ne sais pas quand ça a commencé.
Quand on a pris,
j'ai pas fini ma carrière de volleyeur. Ça, j'ai compte la reprendre aussi. Enfin, j'ai plein de carrières superposées, donc je sais pas laquelle
mannequin,
ça c'est
écrivain.
Stagiaire, ben voilà.
Femme de ménage.
Femme de ménage.
C'est Jarod.
Ça, c'est par exemple, j'y ai pensé.
Toiletteur pour chien.
Non, ça non.
Ça non.
Non, ça se.
Ça, c'est, il y a deux trucs que je ferai jamais, c'est m'occuper même veto. C'est-à-dire, quand je vois mon chien, ce qu'il est capable de faire avec mon chien, le gars, je me dis, t'as gagné ton fric, même, là, parce que là, moi, rien que là, regardez, déjà, j'ai du mal, mais toi, tu mets les doigts dans la bouche.
Ça va.
Non, mais il fait ça, le veto.
Surtout quand vous
le
vendez comme une table basse qui pue. Donc,
voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il y a ça. Et il y avait l'autre métier que je ferais jamais, j'étais là-dessus, en fait, avant veto.
Ouais.
Toiletteur.
C'était quoi?
Toiletteur, non, c'est un autre.
Gigolo, non, comme dans le film.
Non, c'est vrai.
Je sais pas, il faudra que je réfléchisse.
Bon, mais alors, faites-nous signe.
Tous ces métiers que je vais pas faire, il y en a plein, en fait.
Et on va recevoir Isabelle Bouillet qui est avec nous. Qui nous a rejoint autour de la table déléguée nationale de l'association ATD Quart Monde. Bonjour Isabelle. On vous a fait venir parce qu'on, justement, la toile de fond de cette comédie Tant de chiens, c'est quand même en effet la situation de son père qui sombre progressivement dans la précarité. Je dis précarité parce que jusqu'alors on pouvait dire aussi pauvreté. Il y a une distinction à faire entre les deux termes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais remercier Philippe Rebaud pour la prestation dans ce film. Et juste une seconde sur le fait que je vendrais le téléfilm, notamment au niveau comédie, sur la partie qui est particulièrement succulente dans la vidéosurveillance visionnée par le commissariat.
Enfin voilà,
je dévoilerai pas
la scène.
Pourquoi du comment la scène, mais voilà.
Oui, vous avez non seulement vous avez eu un prix, et puis Isabelle, elle adore le.
Bien sûr.
Enfin, Isabelle est fan de vous.
C'est votre journée. C'est une comédie, ouais, tout à fait.
Ouais. Voilà. Donc précarité, pauvreté, mais voilà, cette distinction.
La précarité, en fait, c'est l'absence d'une ou de plusieurs sécurités, et notamment celle de l'emploi, comme on voit finalement dans le film, où à partir du moment où il perd son emploi, en fait, c'est la descente, c'est un petit peu la descente aux enfers. Et donc, l'absence de précarité, en fait, ça empêche d'assumer ses obligations professionnelles d'une part, mais familiales et sociales, et aussi souvent de jouir de ses droits fondamentaux. Voilà, donc le film aborde un tout petit peu cette question-là. Et en fait, l'insécurité qui en résulte est peut-être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves, en fait, et définitives. Donc c'est là qu'on peut basculer, effectivement, dans la grande pauvreté. Et la différence, c'est qu'en fait, c'est que dans la grande pauvreté, ce sont plusieurs domaines de l'existence qui sont vraiment touchés, et quand elle devient persistante, forcément, les gens ont beaucoup plus de mal à réassumer leurs responsabilités, à reconquérir leurs droits par eux-mêmes.
Oui.
Là, on voit qu'effectivement, il a tout un soutien et il a une vie, voilà, on va dire classique, avec une femme, des enfants et un niveau de vie, et que l'aléa de la vie, l'accident de la vie fait que effectivement, on peut se retrouver dans une situation difficile.
Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'est plus en mesure de payer son loyer, parce que c'est aussi ça la difficulté. Mmh. Non seulement il était déjà dans des tracas financiers avant, mais à partir du moment où on n'a plus cette possibilité-là, on se retrouve soit donc à squatter comme il le fait, et c'est problématique, surtout quand on a des enfants et qu'on a la garde alternée, en fait.
Oui, c'est ça. Alors là, on voit qu'il a des ressources, lui. Donc c'est
amical,
là qu'on voit qu'il y a
familial, oui.
Ouais, si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que ce qui est au bout de ce que vous dites, c'est l'effondrement psychologique. C'est-à-dire quand la personne pense qu'il n'y a plus jamais de solution et qu'il ne croit même plus en lui. Hein. Moi, mon personnage, c'est un peu ça la différence. C'est qu'il n'est pas effondré psychologiquement, il est encadré, il a même un addictologue. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on sent que ce gars va enfin, voilà, je sais pas comment le dire.
C'est ça.
Il va rebondir.
Il n'est pas effondré, lui, intimement. Voilà.
Oui, en fait, la pauvreté, pour la définir, elle est multidimensionnelle. On vient juste, la semaine dernière, donc, de rendre public un rapport que nous avons remis à une des ministres, Elisabeth Borne, qui est en charge des objectifs de développement durable, dont le premier est l'éradication de la pauvreté. Donc, on a remis ce rapport qui a été mené c'était une recherche participative avec des chercheurs, des scientifiques, et les co-chercheurs qui étaient des personnes en situation de grande pauvreté dans toute la France, qui ont travaillé pendant 3 ans très durement pour effectivement déterminer 8 nouvelles mesures de la pauvreté, pour effectivement une nouvelle dimension qu'on voudrait voir mesurer et qu'elle soit plus uniquement monétaire. Oui. C'est-à-dire que jusque-là, on ne mesure que la pauvreté de façon monétaire avec 1,9 $ par jour et par personne.
C'est ça, c'est le seul.
Et voilà. Et donc là, notamment dans ces nouvelles dimensions, il y a la maltraitance sociale, c'est-à-dire comment la société traite et regarde les plus pauvres, la maltraitance institutionnelle, je ne vais pas toutes les citer, mais comment la société et l'État traitent et jugent et contrôlent la vie des plus pauvres à partir du moment où on a des minima sociaux. On vit avec les minima sociaux.
Ça touche combien de personnes en France ?
Alors, aujourd'hui, le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian. Il a été recalculé justement dernièrement, et on a eu les derniers chiffres la semaine dernière. Il est à 1 026 €. Par mois et par personne.
Ça, c'est le seuil de pauvreté.
C'est le
1 026 €.
Mais nous, pour la grande pauvreté, les personnes qui sont vraiment dans des situations très, très difficiles, on détermine à 50% du revenu médian, c'est-à-dire à 850 €, de ce revenu.
Et ça concerne combien de personnes en France?
Parce que c'est ça, 9 millions pour les 1 026 € et 5 millions de personnes encore qui sont à 855 € ou moins. Ce qui fait que c'est absolument...
Ça s'additionne 9 et 5, là, dans ces cas-là?
Non, ça
se recouvre.
Voilà. Ce qui fait que nous sommes effectivement très, très... politiquement très engagés. Notre mouvement ATD Quart Monde est avec bien d'autres associations en ce moment, avec notamment la stratégie de lutte contre la pauvreté qui a été déterminée il y a un an par le président de la République. Nous sommes très très attentifs et très 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 vigilants sur les mesures qui sont prises, parce que nous pensons aujourd'hui qu'elles ne vont pas dans le sens d'une éradication de la pauvreté telle qu'elle avait été annoncée et telle que nous battons pour cette question-là.
Est-ce qu'il y a un profil type? Parce que en fait, dans le film, on voit ça peut toucher à la fois le père de famille divorcé qu'un cas. C'est vrai que le fait d'être séparé, ça fragilise aussi le foyer, et puis ça peut toucher un jeune. C'est le cas du personnage incarné par Pablo Poli, qui vraiment, il a une vingtaine, quoi.
C'est ça. En fait, les personnes les plus touchées aujourd'hui sont entre autres les jeunes. Les jeunes qui aujourd'hui n'ont aucune ressource à partir de 18 ans, entre 18 et 25, s'ils ne travaillent pas et si effectivement, notamment les jeunes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école jusqu'au bout, qui sont décrocheurs scolaires. Aujourd'hui, on est très, très inquiets pour la réforme du revenu universel d'activité qui s'annonce, car nous sommes persuadés que s'il n'y a pas une revalorisation notamment de ces 470 € pour une personne, en plus les personnes touchent l'APL, mais une personne seule touche aujourd'hui 470 €. Ce qui fait que les personnes ne peuvent pas vivre, elles ne peuvent que survivre. D'où après effectivement
Le système D, plus ou moins à voile, mais en tout cas on voit bien que le personnage de Pablo Poli fait appel à des choses pour être cobaye, des choses comme ça. Donc on est quand même bien loin aussi de l'image de l'assistanat, j'attends que les aides sociales tombent, parce que finalement c'est pas avec ça qu'on peut vivre dignement.
Bien sûr. Et alors
c'est important comme message, parce que souvent c'est un peu le cliché standard en disant ils ne font rien, ils touchent des aides et ils sont tranquilles pendant que je vais au boulot tous les matins.
Et Frédéric, sur les jeunes, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, il y a surtout dans ces gens qui sont touchés par la pauvreté, il y a un élément qui a changé durant les 5 dernières années, c'est qu'avant, on pouvait encore avoir des personnes au téléphone, des travailleurs sociaux, qui pouvaient faire intermédiaire et créer une médiation. Or, elles sont en train de toutes disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des plateformes téléphoniques. Quand on a des factures qui s'enchaînent les unes aux autres, on ne peut plus joindre personne. Et souvent, les gens se retrouvent dans des situations de précarité extrême sans avoir un être humain qui peut faire la médiation et apporter une solution. C'est-à-dire que la technologie est faite en ce moment pour séparer encore plus les gens qui sont déjà en situation de précarité.
Ouais, j'ai la sensation justement que la précarité, elle touche tout le monde. Enfin, elle fait peur à tout le monde. Personne, je pense, autour de la table ne peut se dire je redoute pas un moment qu'un accident de la vie fasse qu'il y ait une sorte de cercle vicieux qui se mette en place et que je sombre là-dedans. Quelles sont les ressources, en fait, pour les gens concrètement aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, les ressources sont simples. C'est ce que disent les personnes très pauvres qui sont engagées dans notre mouvement ATD Quart Monde et qui sont des militants Quart Monde, disent à combien la solidarité, le combat, la lutte pour survivre, on est vraiment dans des situations de survie. C'est bien pour ça que les messages que nous voulons passer à la société, c'est un, effectivement, que les gens ne sont pas désassistés mais se battent et ne rêvent que d'une chose, c'est de travailler.
Être bien.
Les territoires zéro chômeur aujourd'hui, l'expérimentation qui est menée et pour laquelle on compte vraiment qu'il y ait une deuxième loi qui puisse être promulguée très prochainement, on était très très inquiets ces derniers jours, on prouve que que, un, il y a du travail pour tout le monde à partir du moment où sur les territoires, il y a de la solidarité, où on organise les choses pour que les personnes puissent avoir une place. En fait, la plus grande difficulté pour des personnes qui sont dans des situations de très grande pauvreté, c'est le mépris et les regards qui sont effectivement ce qu'on appelle la maltraitance sociale. Mais les gens savent faire des choses et les territoires ont besoin de tous pour pouvoir développer des activités. On le prouve dans ces... Je vous encourage à aller voir le film de Marie-Monique Robin.
Et comment est-ce qu'on peut vous aider, Isabelle Bouillet, en deux mots, avec l'association, avec comment ?
Rejoignez-nous, rejoignez-nous vraiment, allez sur le site Atelier Garmont de France, parce que les engagements, aujourd'hui on propose beaucoup de formes d'engagement.
Il y a un site internet, j'imagine qu'on trouve facilement.
Et nous sortons le livre Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. En finir avec les idées fausses, à partir de janvier, vous pouvez précommander pour Noël.
Il coûte
5-6 euros. Okay. Et franchement, vous avez tous les éléments très scientifiques.
On mettra le lien sur
étayés.
Le site de France.
Okay, merci beaucoup Isabelle Bouillet d'être venue. En effet, on renverra ce livre pour Noël. C'est un bel achat.
Tanguy Pastureau, vous nous avez rejoint. Hop, vous êtes assis à côté de moi. Oui. C'est trop blanc. Tanguy, vous avez suivi le président Macron.
Oui, alors pas physiquement, hein, parce que je me serais fait éclater par son service d'ordre, déguste aussi anguleux que des apéricubes, mais sans question de générale, culture générale à l'intérieur, hein, parce que c'est pas des flèches. Non, je l'ai suivi à la télé. Il est dans les îles. Et ben, je vais vous faire un petit débrief.
Très bien. Ben, on voit ça dans la dernière partie de l'émission. Bien mais sûr. France Inter, pour l'instant, bien il est sûr. Midi. Retour de la bande originale spéciale vacances, Sonagui est né avec Frédéric Ségrist, Albert Algou, Rémi Crêteville, bonjour Tanguy, on va vous retrouver dans quelques minutes, et bien sûr Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous, salut Daniel Morin, notre invité aujourd'hui, et Philippe Rebaud.
Bravo. Bonjour
Philippe. Philippe Rebaud, le roi de la promo. Je plaisante. Pour Tant de Chiens, ce film diffusé sur Arte le 1er novembre, que vous pourrez retrouver ensuite sur Arte plus 7, c'est aussi l'avantage de cette plateforme. Prix du meilleur téléfilm au Festival de la Fiction de La Rochelle.
Je me demande s'ils ne disent pas premier prix du film. Téléfilm.
Ouais, moi, c'est écrit aussi.
Je rigole.
Mais en même temps, vous avez raison, la distinction ne vaut plus vraiment. Mais moi, je parle d'un film. Mais parce qu'il est diffusé à la télé, on dit téléfilm. Mais c'est vrai que c'est les conventions, mais vous avez raison. C'est un très beau film. C'est un très, très beau film.
C'est pour faire de la promo.
Quel film.
Réalisé par Édouard Deluc. À vos côtés, Pablo Poli, Laure Calamy et Élodie Bouchès, qui incarne votre ex-femme. Assez patiente aussi, parfois.
Ah bon?
Oui, c'est-à-dire que, pardon, mais quand.
Elle a toujours. À chaque fois qu'on la voit, elle est en train de m'engueuler. C'est ce que je lui disais, même hors champ, des fois, elle avait tendance à
vous engueuler
mon
aussi.
Mon ex-femme, ouais. Non,
c'est par le regard. Le regard, c'est vrai.
Non, parce que
elle avait tout le temps, enfin, moi, j'ai l'impression que dans le film.
Ouais.
Il y a tout le temps, enfin, il y a quelque chose qui pèse sur moi, c'est son regard, quand même. Hein. Et après, bon.
Parce que vous essayez toujours de la séduire, d'espérer qu'elle...
Qui n'essaierait pas de...
D'Élodie Bouchès,
chercher son indulgence.
Chercher son indulgence, non, c'est ça. Lui, essayer de lui faire comprendre que je ne suis pas un mauvais bougre.
Non.
Je crois que... D'ailleurs, c'est assez joli, elle le comprend, mais...
Mais elle inquiète pour ses enfants. Parce
bien sûr.
Vous incarnez ce capitaine de bateau-mouche qui se fait mettre à pied pour 3 mois et qui se retrouve exclu de son appartement, à squatter un peu à droite à gauche avec trois enfants qui ne sont pas bien grands. L'aîné passe son brevet blanc, donc c'est un moment important aussi pour elle. Et vous n'avertissez pas votre ex-femme que pendant les semaines où vous avez la charge des enfants, vous n'êtes pas à votre domicile, que l'aîné est parti chez une copine pour ne pas louper son brevet blanc, et que vous vivotez un petit peu, et que vous avez un nouveau coloc incarné par Pablo Poli qui se balade en peignoir toute la journée.
Oui, c'est ça. Non, mais je peux pas la prévenir. Enfin, je veux pas l'inquiéter.
Oui.
Enfin, c'est là où je suis un bon bougre. Je me dis bon, ça va bien se passer.
Mais voilà, un mauvais bougre pour elle parce que les enfants sont vivotes, quoi. Ils sont un peu
ballottés. Oui, mais si elle ne pas cette pression, on se marre bien quand même à manger des pâtes dans des lits d'autres gens.
Mais c'est deux aspects différents de la vie, quoi, et de l'encadrement pour les gosses.
Ça a toujours été un peu trop carré. C'est à mon
goût. Ah oui, d'accord. Ok. Donc Tant de Chiens avec Philippe Rebaud et cette nouvelle collaboration avec Édouard Deluc, c'est la troisième, hein, c'est ça?
C'est la troisième, je réfléchis. J'ai même de ça, on avait fait des courts-métrages. Oui, c'est la troisième.
Et il y en a d'autres à venir, si j'imagine.
Oui, il y en a d'autres à venir.
Déjà prévu.
Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Il est en écriture, donc.
Faut lui laisser un peu le temps.
Oui, c'est voilà.
Mais tout à l'heure, on parlera bien sûr de La Rochelle, où vous avez reçu un prix fantastique.
La Rochette.
Et tellement mérité.
Oui, j'adore les Rochelets. Enfin, voilà. C'est même, quand bien même, j'aurais pas eu le prix, je l'ai.
La mer et les bateaux, quoi.
Oui, la mer
et
les bateaux, c'est mon truc.
Quand même, d'avoir le prix.
D'avoir le prix, ça a été un plus.
Les huîtres.
Et les huîtres. Je leur ai dit, je reviendrai, La Rochelle. J'aurais même dit.
Sur le restaurant, là, sur le Vieux-Port.
Sur le Vieux-Port. C'est lequel, parce que j'en ai fait
Tanguy,
plein.
Tanguy Pastureau, vous êtes là. Et Tanguy Pastureau, j'ai constaté, comme tout le monde, que le président Macron n'était plus parmi nous.
Et non, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Hein. Chirac nous a déjà fait le coup il y a 3 semaines, on ne peut pas déprogrammer toutes nos émissions. Non, il est vivant bien sûr, il n'a que 41 ans en politique, ça équivaut à la petite enfance. Brigitte parfois lui met du talc avant de le border. Et il est obligé de lui dire, mais enfin maman, je suis grand maintenant. L'autre jour elle a répondu, prouve-le. Il a dit, j'ai mué. Elle a répondu, ça veut rien dire, Gérard Darmon à 5 ans et demi, il avait sa voix actuelle, il a commencé à cloper à 2 ans, ce déchet. Alors il a dit, je vais voyager seul. Elle a répondu, quoi? Avec juste ta carte Kiwi? C'était un truc que la SNCF faisait à notre époque à Brigitte. J'étais à moi pour les petits tous. Hein. Ces pourris qui n'ont aucune conscience des classes sociales puisque même en première, il y en a qui glapissent. Et donc Macron est parti. Alors dans les îles, hein, pas bête, mois d'octobre à Paris, il s'est dit, je vais me farcir Jean-Yves Le Drian qui a le même air désespéré que Jean-Michel Jarre s'il devait jouer Unplugged. Et il a pris l'avion donc direction le soleil. Il est d'abord allé à Mayotte hein, où il a dit à la foule, Kwesi Wama Ore, ce qui signifie en maoré, bonjour les maorais. Il s'est salué dans toutes les langues. Hein, en chinois par exemple, ça se dit, j'ai apporté les contrats, les droits de l'homme, non, on s'en tape. Et dans le cadre d'un voyage à Mykonos, on dit, allez hop, tout le monde retourne son slip. Et là, Macron a fait ce que font les politiques, il a promis, hein, il s'est pris pour l'émir du Qatar s'il avait mangé le Père Noël. Il a promis un nouvel hôpital, 800 nouvelles classes pour les enfants, des petits déj pour les gosses à l'école, il va refaire le port et l'aéroport. À un moment, il a pris une pelle et a rebouché 2 trous dans la route en bavant, le raid l'a maîtrisé d'un coup de tasse. Ensuite, notre loulou s'est rendu dans les îles Éparses, un archipel paumé, hein, encore moins facile à trouver qu'un téléspectateur d'énergie à QI positif, plus précisément aux Glorieuses, qui font seulement 53 km2. Hein. Ce sont les seules îles à faire 2 tailles de jeans de moins que David Douillet. Alors l'archipel est quasi inhabité, hein. Y a moins de gens là-bas qu'à un meeting d'Alain Soral à Tel Aviv, 15 militaires qui se relaient. Alors pourquoi? Parce que Madagascar revendique la souveraineté de ces îles, la France aussi. Il faut dire qu'il y a du pétrole, donc on se dispute. Si Total construisait une pompe pile entre la France et l'Allemagne, on serait capable de lancer un scud sur Merkel, hein, juste pour la garder. Le scud, bien sûr, rebondirait sur le casque en cheveux de Merkel, irait taper l'Alsace, donc on ne le fait pas. En attendant, comme il y a peu d'humains, hein, 15 militaires qui tremblent en nuit en se masturbant dans des berniques, ce qui a donné lieu à 15 circoncisions involontaires. Et bien la faune prend ses aises. Aux Glorieuses, il y a des milliers de tortues. Hein, Macron les a observées, par réflexe, en les voyant pioncer, il a dit, je remercie monsieur Larcher de m'avoir invité au Sénat, puis il est reparti. Il a le bilan carbone de Lémy, le chanteur de Motorhead, comme on a fait sa crémation et que les 1000 litres d'alcool qu'il avait dans le corps sont partis en torche.
Et le président Macron est arrivé hier à La Réunion.
Oui, oui, il est accueilli par une grève générale. Tout le monde s'arrête, comme quand on joue à 1, 2, 3 soleil et que celui de chargé de dire aux autres qu'il pouvait bouger est mort d'un AVC. Alors, pourquoi ce mécontentement? Et bien parce que 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Hein, mais comme les mecs vont pas détourner un navire Costa direction Le Havre, puis en remontant la Seine sur des ragondins déboulés à Paris pour tout péter, on ne les entend pas. Donc Macron, là, va à leur rencontre. Seulement, il a claqué tout le budget à Mayotte. Hein, à distribuer, il lui reste 4 mugs de la boutique de l'Elysée, plus des préservatifs à l'effigie de Castaner. Slogan, je suis dur et vous. Ça risque de ne pas suffire. Donc, que fait Macron quand il n'a plus de sous? Eh bien, il nous sort un dispositif de relance économique. Cette fois, c'est Choose la Réunion. Il y avait déjà eu Choose France. Hein, vous le mettez dans la Creuse, il vous dit Choose la Creuse. Ainsi de suite. Alors, bien entendu, les investisseurs en général n'en ont rien à carrer. Ils Choose la Roumanie, hein, parce que c'est moins cher. Donc là, pour Choose la Réunion, il est venu avec Bruno Le Maire, hein, le monsieur apathique qui ferait passer une asperge pour une salade détox aux 5 agrumes. Donc leur truc, hein, c'est moins dans la poche qu'une sortie spéléo avec des cul-de-jatte. Bref, Macron a été moins bien accueilli qu'un hémophile en Transylvanie à qui les vampires diraient zut, il n'y a plus rien à manger. Hein, les Réunionnais, l'attendaient avec des ballons jaunes. Il y a aussi eu avant les gilets jaunes. Ouais. Hein, le jaune, c'est LA couleur de la contestation. Récemment, j'ai vu la reine Elisabeth II en jaune. J'ai cru qu'elle démarrait une émeute. Hein, je m'attendais presque à l'entendre crier fuck me. Ça revient à dire fuck the queen quand on est soi-même the queen. Donc la vie d'un président, c'est une vie de chien, c'est atroce. Je préférais être un furoncle dans le dos de Michel Sapin que président. Parce que vous restez à Paris, il pleut et les gens vous haïssent. Vous allez dans les îles, il fait beau, mais les gens vous haïssent. Moi qui ai besoin d'être aimé, au moment d'entrer à l'Elysée, j'appellerai Stéphane Plaza pour lui dire de remettre le bien en vente. Fais-moi dormir dans le clic-clac de Daniel Morin. Je lui dirai même l'ennemi où Daniel Morin est lui-même dans le clic-clac. Allez, il est midi passé, moi ça va être Choose la cantine.
Bravo! Bravo. Maurice Tanguy Pastureau qui le 14 décembre sera à Clermont-Ferrand.
Allez, on va jouer avec quelques questions sur l'actualité culturelle. Vous pouvez participer cette fois-ci, okay. Philippe Rebaud. On va voir qui est le plus au fait de ce qui se passe. Quel sujet très parisien va être l'objet d'une future mini-série britannique.
Les rats.
Alors, je vais peut-être... Quel événement qui a eu lieu à Paris va
nuit
être...
blanche.
Non, pas la nuit blanche.
La révolution.
Non, pas Paris la révolution Plage. Non plus.
C'est,
un événement.
C'est contemporain.
La commune.
Contemporain.
L'installation du. De...
Un événement pas forcément joyeux. Hein.
La Tour Eiffel.
La mort de Chirac.
Les attentats.
Non, pas l'attentat. La mort de Chirac non plus.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Notre-Dame de Paris.
Absolument. Absolument. L'incendie de Notre-Dame qui va donner lieu à une mini-série adaptée d'une enquête du New York Times sur cette catastrophe. C'est en cours d'écriture. Ça pourrait être diffusé dès 2021. Votre rapport, vous, aux séries, Philippe Rebaud?
Je crois que c'était mon rapport à Notre-Dame.
Non, je sais pas. Vous en avez peut-être, alors, si vous avez...
Aussi, ben oui.
Non, j'étais en train de réfléchir à comment ils vont faire cette série, où ça commence.
Quand
est-ce
vous
que
avez
c'est
tourné,
le mec qui fume sur le toit? Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, je me disais, tiens,
oui.
Est-ce que je jouerais le rôle du mec qu'on le voit partir de chez lui le matin?
Un peu léger, inconséquent.
Sa famille dit arrête de fumer, ça va là.
Ouais.
Et il arrive, il fait le chantier, puis après il pose sa clope, puis il redescend, il fait putain, ma clope, ouais. Trop tard, machin.
Voilà,
il rentre chez lui.
Enfin,
du coup, je me dis là, mais je parle pas anglais, donc.
Après, il est arrêté.
Après, il est arrêté, après tout. Enfin, bref, il galère, sa femme veut lui dire, tant de chien.
Donc, quel rapport
j'ai aux séries? Je découvre ça un peu, je commence à binger comme.
À watch binger.
Je faisais ça dans les bars, mais maintenant je le fais avec les séries.
Ouais, ça valait une ça saison entière, voilà. Comme ça.
C'est boire vite ou regarder une saison, ouais. Une série vite. Et du coup, je découvre un peu, mais je suis un peu en décalé. C'est-à-dire, je vois bien qu'il y a des gens beaucoup plus pointus que moi. Moi, je suis encore... j'ai l'impression très en retard, parce qu'il y a aussi ça, maintenant. Moi, ce qui est un peu vertigineux avec les séries, c'est dès que j'en découvre une, il y a un mec pour me dire « Mais attends, ça c'est nul, il y en a une !» Et tout le monde en a une.
Mais ça dépend, si vous dites, si vous racontez que vous êtes en train de regarder Dallas, c'est logique qu'on vous dise...
Bon, c'est gentil.
Non, mais je sais pas, vous en êtes où? C'est-à-dire, vous regardez quoi? Qu'est-ce que vous aimez?
Là, j'en ai redécouvert une, enfin, découvert, moi, mais c'est The Nick. Ouais. Qui a été tourné par Soderbergh avec Clive Owen, qui est un truc de maboule. Enfin, je l'ai bingé. Ouais. Et c'est là, comme ça, que je suis un peu rentré dans la série. Donc après, maintenant, j'ai fait Peaky Blinders.
Ouais. Mmh.
Donc bon. Voilà que je suis en train de rejoindre. Alors, il y a aussi le problème des saisons, là. Comme je fais un peu n'importe comment, des fois, je
comprends plus rien.
Du coup, je les regarde pas obligatoirement pour ce qu'elles disent.
D'accord.
Fois, Peaky Blinders, je comprends rien.
Ouais.
Mais j'aime bien le héros,
l'image est belle.
L'image est belle,
la musique,
tout. Non mais
ça passe
tout,
le temps.
Ouais, voilà.
Et on n'a pas l'impression de se faire voler un peu de son temps, justement quand on met le doigt dans l'engrenage, parce que quand on commence à devenir un addict.
Je pense que je fais voler énormément par plein de gens. Du coup, celui-là, c'est pas le pire qu'on me vole. Franchement, heureusement qu'il y a la télé pour me voler du temps.
Sinon,
parce que sinon, j'aurais un fauteuil et mon chien me volerait du temps à regarder. Non, parce que j'ai quand même des enfants. Donc, ce que je veux dire, c'est ce que j'impose à mes enfants, je me l'impose à moi-même, pas plus de 6 heures de télé par jour.
C'est bien, c'est un bon
donc,
ratio.
C'est pas du temps volé, ouais, c'est un devoir
raisonnable.
Ouais, c'est ça.
Et la lecture, du coup, elle a laissé sa place ou pas? Ou elle reste.
La lecture, ouais. Pour les enfants ou pour moi?
Vous?
Bah, pareil, pas plus d'une demi-heure par
pas
jour.
Bouquet,
tranquillement, mais on le fait pour de vrai. Chacun lit à haute voix dans sa chambre.
Ok, d'accord. Vous dans le bureau, donc.
Voilà, moi dans le bureau.
On continue. La ville de Douai va accueillir un nouvel habitant début 2020.
Un panda.
Qui est, d'après vous, ce mystérieux habitant? C'est assez étonnant.
Xavier Dupont-Ligonnès.
C'est une star américaine.
C'est un humain. C'est un humain, c'est même un homme. Et c'est en lien avec sa profession. Voilà
vivant.
Pourquoi. C'est
un bourreau.
Un bourreau, non pas bourreau. Il est vivant, oui, il est vivant, il va être accueilli.
Un croque-mort?
Non, non plus.
Un thanatopracteur.
De quoi une cité, et je dis pas
d'un
ville,
maire.
Je dis cité, aurait-elle besoin?
Ah bah d'un ministre, d'un architecte?
Non, pas d'un architecte.
Ah pensez un paysagiste. Pensez
une piste cyclable?
Non, c'est un homme.
Un
homme.
Un bon
un prêtre non plus, non. L'action que cette personne pourrait avoir avec les gens dans son interaction?
Un psy?
Un médiateur?
Un médecin.
Pas psy, mais bon, on est...
Un gourou.
Un gourou, non. Un voyant non plus.
Un chef de secte.
Un dealer.
Non. Mais quelqu'un qui pourrait nous aider à nous élever intellectuellement.
Un gendarme.
Un philosophe.
Un philosophe.
C'est ce que j'ai dit.
Un philosophe qui va monter en fait une résidence dans la ville de Douai. Et il pourra répondre aux questions des habitants.
Ça va la gourou, en fait. C'est un philosophe qui
sont au bout du rouleau.
Ils démarrent toujours comme ça, les gourous. Ils démarrent par une petite structure avec des gens qui viennent leur parler. Après,
sauf que lui, il est labellisé. Il a été choisi par la ville. C'est pas un charlatan, c'est pas Raël, quoi. Tout va bien. C'est une résidence qui aura lieu de janvier à mars. C'est une première au monde. C'est une première au monde en tant qu'initiative. L'idée, c'est de rendre un peu accessible à tous un certain nombre de réflexions, de philosophie actuelle, de questionnements, ce qui peut être plutôt utile, j'ai l'impression, dans les débats du moment sur la laïcité ou sur ce genre de choses. Je ne sais pas, ça vous semble être une bonne idée ou pas? Si vous aviez une question à poser à ce philosophe, vous lui demanderiez quoi?
Mais tout ce qui favorise la discussion, l'échange et tout ça me paraît une bonne idée.
On n'est pas au café. On n'est pas au café.
Non, mais donner un peu de profondeur au rapport. Mais... Alors là, détrompez-vous, des fois, dans les bars, il y a des... j'ai entendu des trucs très intelligents que j'ai oubliés le lendemain, mais c'est le drame.
Le
mais
même.
J'ai déjà entendu des trucs. Non, j'étais plutôt en train de me poser la question du philosophe qui a été nommé à Douai. Il y a un mec, on lui fait, dis donc, t'as bien réussi, t'as ton master en philosophie, tu vas à Douai. Mais pourquoi c'est faire tu vas échanger, mais avec un peu de bol, peux créer une secte et te faire de la caillasse au bout. Ouais, mais t'oublie pas tes bouquins de philo, tu les mets dans l'étagère derrière, et après, bon, t'avises. Ils te poseront pas des questions trop dures sur le stade de foot, sur... on joue avant-centre, faut-il être...
J'adorerais que votre prochain tournage ait lieu à Douai.
Par exemple. C'était rien contre Douai.
Non, mais des habitants de la ville de Douai.
Non, c'était pour le plaisir de faire une blague.
Pour le plaisir.
Mais je suis d'accord, alors là, pour le coup, des philosophes partout, ça, oui. Enfin, ça dépend les...
J'en
ai qui me sont... Tiens, je vais vous présenter un philosophe. Je vous demande d'accueillir un vrai philosophe. Frédéric Segrist.
Oui. Celui du Paradouet. Bravo pour ta nomination à Douai.
Bah oui, mais en fait, c'est moi qui ai demandé. J'en suis arrivé à ce point de ma vie où j'ai envie d'aller à Douai.
Bah oui.
Alors aujourd'hui, je voudrais faire un mea culpa parce que c'est important. C'est important de demander pardon quand les mots ont dépassé notre pensée. Hein, pendant longtemps, j'ai eu des mots un peu durs contre ce gouvernement à cette antenne. Des mots très durs. Il y a des sexes au réveil qui sont moins durs que certains de mes mots. Je pense qu'on aurait même pu hâtivement me qualifier de gauchiste, ce qui aurait été totalement faux, hein, tant on sait qu'ils sont rares dans les médias. Donc oui, c'est vrai, j'ai eu des mots durs, mais aujourd'hui je comprends enfin qu'en fait, j'avais rien compris. Parce que je sais qu'il y a désormais un ministère de la magie dans ce gouvernement. En fait, l'Élysée c'est Poudlard et Brigitte Macron c'est Dumbledore. Alors qu'à Paris, on en est à 10 000 euros du mètre carré, que le Perrier Rondelle est à 122 euros en terrasse, dont 22 rien que pour la rondelle. Non, Daniel, n'interviens pas sur la rondelle. Et que chaque midi, tu dois choisir entre payer l'éducation de tes enfants ou t'offrir un sandwich au thon. Eh bien, les députés, eux, ont réussi l'exploit de s'augmenter de 300 euros pour faire face à la flambée des prix à Paris. Alors, quand j'entends les Français chouiner « Oui, les fins de mois sont difficiles », laissez-moi rire, quand on veut, on peut. Et moi aujourd'hui, je me rends compte de mon flagrant manque d'imagination quand je regarde mon compte et que je vois qu'il est tout dans le rouge. Mais pourquoi diable je m'augmente pas? Je mérite quand même une autre vie que celle d'Alexis le Rossignol.
Arrête.
Moi, au lieu de recevoir des spams m'invitant tous les jours à augmenter la taille de mon sgeg, et je ne sais pas pourquoi, je préférerais recevoir la formule qui permet d'augmenter celle de mon salaire. Le problème, c'est qu'on se laisse écraser par le réel, alors que la magie, c'est dompter le réel. Les députés, ils ont gardé leur âme d'enfant, la petite souris, les dents descendants, il fallait bien que ça soit récupéré par quelqu'un. Maman, j'ai 300 euros sur mon oreiller. Et regardez, la magie est partout. Magic is everywhere. Patrick Balkany, 15 jours de prison et c'est devenu Nelson Mandela. Il réclame déjà un peu d'humanité. Tu le laisses encore un mois et il nous chante We are the world, pieds nus en chantant du djembé. Alors jouant du djembé, parce qu'on peut pas chanter du djembé, c'est pas possible. Mais Patrick pourrait le faire. Il a fait des trucs plus incroyables. La pauvreté, c'est un problème, la pauvreté. On en parle depuis le début de cette émission. Eh bien, pouf! Le gouvernement a fait disparaître la pauvreté, oui. Enfin, l'Observatoire National de la Pauvreté. Car comment faire disparaître 9 millions de pauvres? Je vous le demande. Eh bien, en arrêtant de les compter. Et ça, c'est le côté disruptif de ce gouvernement. C'est mon projet. On peut tous résoudre les grands problèmes de ce monde avec des petits gestes simples. Vous avez un parent malade? Ça pèse sur votre morale et votre compte en banque? Cessez de lui répondre au téléphone, n'allez plus le voir, gardez-le en bonne santé dans votre souvenir. Un mendiant qui crie famine sur votre chemin, les doigts dans les oreilles, ce qu'on n'entend pas ne nous gêne pas. Vous cherchez du travail? Traversez la rue, ça serait tellement dommage d'être sur le mauvais trottoir. Vous êtes gêné par la fermeture des frontières? Vous voudriez vous sentir comme une terre d'accueil, mais sans les migrants? Faites venir de la viande étrangère! Un petit goût d'exotisme, tout ça à bon marché. Vous avez peur que les Arabes se sentent agressés par vos polémiques sur le voile? Compensez en envoyant des armes à l'Arabie Saoudite pour 2 foulards enlevés, 10 missiles offerts. Tout ça pour dire qu'à trop être obsédé par le prix de la baguette, nous Français, on en oublie souvent qu'elle est magique.
Bravo. Bravo.
La boule originale. Sur France Inter.
Frédéric, si on veut vous voir en vrai, en chair, en os,
eh bien,
faut-il aller
dès ce soir à la basse-cour à Grenoble.
Eh ben voilà.
Ça m'a l'air d'être une bonne affaire.
Et l'autre bonne affaire aussi, c'est parce qu'il a eu un prix. Ouais. Et pas n'importe quel prix. À La Rochelle, mesdames et messieurs. Ce qui vaut bien le coup, vendredi 1er novembre, de rester tranquillement installé dans son canapé pour découvrir
Ton de chien. En rentrant d'un endroit tranquille, aller s'asseoir tranquillement.
Oui, pas tout le monde, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Pour cette fiction d'Edouard Deluc, non, pas tous. Avec Pablo Poli, on va continuer. Laure Calamy, Élodie Bouchez, Jean-Luc Bidault, Solène Rigaud, une comédie sur fond de réalité sociale. On peut voir et découvrir ce Paris magnifique, majestueux, à travers la visite des bateaux-mouches, puisque vous êtes commandant de navire, de bateaux-mouches. Et il y a l'autre Paris, le Paris quelque peu esquissé par Frédéric Sigrist dans sa chronique, à savoir des loyers qui deviennent complètement dingues, qui font qu'on se retrouve plus facilement dans une situation de précarité. On avait tout à l'heure Isabelle qui nous parlait des revenus et c'est 1000 euros. À 1000 euros, je ne sais pas comment possiblement on s'en sort avec 2 enfants à Paris, avec toutes les contraintes ça doit être...
Je me faisais aussi la réflexion, le SMIC il est à combien? 1003 1004
Oui, c'est ça, dans ces eaux-là.
On n'est pas si loin de... ça se touche, c'est étonnant, non mais ça m'a un peu...
Ça veut dire qu'il n'y a pas un centime qui n'est pas comptabilisé.
Le SMIC, c'est déjà presque.
Et surtout que là, on parle d'un foyer où tout va bien. C'est-à-dire que là-dessus, vous rajoutez une voiture qui tombe en panne ou le moindre souci, une facture à 200 euros.
Alors, justement, tour de table, qu'avez-vous retenu de cette émission, Tanguy?
Moi, j'ai trouvé Philippe très, très drôle. C'est le premier invité qui me fait pleurer de rire. Et pourtant, on en a reçu des déconneurs avec Christian Clavier, Charlotte Gainsbourg. Mais là, vraiment, on était au top. Bravo.
Moi j'ai retenu que Créteil, je sais que c'est très très diversifié, il y a une énorme mixité, mais de là appeler ça Casablanca, je
sais pas, moi aussi j'ai eu un moment de trouble.
Maréchal, Père Albert.
Oui. Moi je vais regarder les capitaines de bateaux mouches d'un autre œil. Très sympathique.
C'est vrai, j'ai pu rentrer dans cet univers là.
Ouais.
Les gars sont hyper sympas. Hein. C'est marrant quand même de conduire un bateau mouche, enfin de piloter un bateau mouche. Ouais. Non, c'est vrai, c'est quand même...
Faut bien viser, sous certains
points. Il y a des moments où t'as un peu les...
Faut bien viser, on va rester là-dessus.
C'est pas juste garer ta bagnole, c'est que tu es des gens.
C'est l'histoire d'une vie, faut bien viser Daniel, tiens.
Oui, alors moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment, c'était formidable. Ça méritait largement ce prix de l'huître d'or de La Rochelle. Surtout, n'arrivez pas en retard, ne manquez pas le début, parce qu'il y a Serge Reggiani, c'est une image d'archive, où il est en train de citer du Baudelaire.
Enivrez-vous.
Il est temps de présenter les excuses, Daniel.
Oui, désolé pour Édouard Deluc et toute l'équipe de Mariage à Mendoza, qui ont découvert ce matin que Philippe Rebaud ne se souvenait pas du tout du tournage de ce film. En même temps, il n'a pas eu de prix, ce film. Et comme dit souvent Leïla le samedi soir, on peut tromper son mec, mais jamais le public.
Jamais.
Désolé pour Philippe Rebaud qui, malgré les prix multiples qu'il a reçus, reste le locataire très précaire du bureau de Roman Boringer. Je suis d'accord, monde de merde. Désolé pour les réponses qui ont été quelque peu, ou totalement même, absentes de la bouche de Philippe Rebaud parfois ce matin.
Ça c'est vraiment...
En même temps, quand t'as gagné un tel prix, tu peux tout te permettre.
Merci à tous, merci Philippe Rebaud.
Mais de rien,
merci à tous les copains autour de la table, merci public.
Merci.
Et on se retrouve demain avec Jean-Christophe Ruffin pour une nouvelle bande originale avant qu'on puisse partir un petit peu en vacances.
À suivre les amis, carnet de campagne évidemment, avec le grand Philippe Bertrand.
Grand,
majestueux.
Énorme.
Il a eu un prix lui aussi.
Lui, c'est la péniche de France Inter.
Ouais, les amis, prenez pas la mouche, mais il y a une thématique canine cette semaine.
Mais oui, mon chien stupide, tant de chiens.
Et pour abonder dans votre sens, je vous donne quand même le chiffre net 2019 du SMIC, c'est 1171,34 €.
Voilà, donc net, c'est ça.
À 1030, on est considéré comme pauvre.
C'est le prix d'un loyer d'un 15 mètres carrés à Paris.
France Inter, c'est l'humour, mais c'est également la précision. Merci Philippe Bertrand.
Je vous en prie à votre service, les amis.
Bonne émission.
À demain.
Bisous.